Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 28 août 2018. Alors, quand on a autant rien à dire, je dois dire qu'on devrait pouvoir fermer sa gueule. Malheureusement, je suis quand même censé vous raconter quelque chose, sinon ma déontologie professionnelle, si j'en ai une, serait gravement remise en cause et je ne pourrais plus me regarder dans la glace ou alors en faisant des efforts. J'ai donc envie de faire assez court parce que franchement, hier, il ne s'est rien passé. Plusieurs fois cette année, on a eu l'impression d'avoir vécu la journée qui a battu le record de l'emmerdement maximum. Et pourtant, il y a toujours une séance de plus tard, quelque part, qui fait beaucoup mieux. Hier, c'était assez simple. C'est soit on revenait sur les sujets des jours précédents qui n'intéressent plus vraiment qui que ce soit, puisque le deal douanier avec le Mexique, c'est du passé et c'est dans les prix. La guerre économique avec la Chine, tout le monde s'en balance pour le moment parce que tant qu'il ne commence pas à causer en novembre, il ne se passera rien et le reste est dans les prix, comme on dit dans le milieu. Trump semble s'être fait un point d'honneur pour ne pas tweeter de conneries cette semaine et ses imbroglios politico-électoraux ne semblent intéresser juste personne, si ce n'est les médias américains qui s'excitent encore sur le sujet. Donc, si l'on résume la journée, en Europe, on a baissé légèrement parce que l'euro se renforçait contre le dollar. Alors à ce sujet, il faut quand même signaler que l'on n'avait plus utilisé cet argument pour justifier un mouvement de marché depuis des semaines. Pourtant, l'euro-dollar a bougé, et pas qu'un peu. Mais hier, l'euro-dollar a bougé d'un tiers de figure, c'est-à-dire rien du tout, et c'était la justification attendue pour dire « L'Europe a baissé à cause de l'euro qui se renforce contre le dollar et qui rend les exportations européennes plus difficiles ». Je n'invente rien, c'est dans la presse de cette nuit. Il est vrai que ça fait quand même plus professionnel quand t'écris ça dans un article, plutôt que quand tu dis « il s'est rien passé, les gens n'ont aucune idée, il n'y a pas de volume, mais en plus il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs ». Bref, le DAX a perdu 0,09%. Aux USA, le S&P 500 a terminé sur un nouveau record, 0,03% plus haut que la veille. Là aussi, on est limite au bord de l'euphorie. La justification de la hausse est simple, la confiance du consommateur est au plus haut depuis 18 ans. Waouh ! Encore un chiffre bidouillé par les instances supérieures de la nation qui résulte d'un sondage à 2 balles sur un échantillonnage de 5000 personnes sur la côte Est qui veut à peu près dire autant que juger un mec parce qu'il joue du piano debout et que c'est peut-être un détail pour vous. Bref, le S&P a terminé en hausse de 0,03% et c'est un nouveau record, mais globalement il ne se passe rien. Alors oui, Best Buy a publié des chiffres meilleurs que les attentes, mais baissait quand même de 5% parce qu'on savait déjà. Et en Europe, la banque danoise Sydbank a perdu 11% après avoir publié un trimestre tout pourri et annoncé que la suite, ça sera pire. Mais en même temps, quel lecteur d'investir.ch a de la Sydbank au portefeuille? J'irais même plus loin, qui connaissait la Sydbank jusqu'à cet instant précis? Pas moi. En conclusion, comme ça, à l'œil, je pense que si hier on était resté sur une terrasse à éponger les stocks de Chardonnay Genevois toute la journée, ça n'aurait pas changé grand-chose. 1210$ pour l'or, 68,53$ pour le pétrole et plus de 7000$ pour le bitcoin, 7062$ pour être précis. La raison de ce retour en grâce pour le bitcoin est assez opaque quand on lit sur le sujet, mais une chose est certaine, c'est que pour ceux qui font de l'analyse technique, analyser le chart du bitcoin devient de plus en plus ésotérique, à mon sens, puisque rien de ce qui serait considéré comme classique ne fonctionne. En parlant d'analyse technique et de bull market, comme il n'y a strictement rien à dire, je vous encourage à consulter le chart qui est exposé dans cette chronique. C'est un graphique de la hausse du S&P 500 sur ces 6-7 dernières années qui a été créé par John Boorman, analyste technique chez Broadsworth Capital, qui a rajouté le long du chemin haussier tous les commentaires des gourous de la finance qui nous prédisaient un crash dans les mois à venir. Histoire d'illustrer combien ces prédictions ont été nulles, inutiles, fausses et ridiculement pathétiques. Dans les nouvelles du jour, il n'y a tellement rien à dire que dans le Financial Times, on a même trouvé moyen de parler de la démission de Nicolas Hulot. C'est vous dire s'il n'y a rien. Je ne vais donc pas vous prendre plus de temps. Et avant de vous laisser vaquer à vos occupations, je vous signale encore l'avalanche de chiffres économiques qui vont sortir aujourd'hui. Il y aura tout de même le climat de consommation en Allemagne, les dépenses du consommateur en France, ainsi que le GDP français, qui devrait être boosté par le nombre de nouveaux maillots de la France avec 2 étoiles dessus. Puis aux USA, il y aura le GDP et les inventaires pétroliers. Que d'informations qui vont, nul doute, changer la face du monde puisque l'on n'a vraiment rien d'autre à se mettre sous le clavier. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,2% et l'Asie est en ordre dispersé mais ne fait fondamentalement rien ou pas grand-chose. Voilà, le challenge de la journée sera donc de trouver une terrasse ou manger à midi et pour le reste, on va attendre patiemment que tout le monde revienne pour de vrai au travail afin que je puisse enfin écrire des trucs qui font du sens et pas brasser de l'air pendant 5 minutes et 30 secondes pour broder autour du fait qu'il ne s'est rien passé et qu'il ne se passera probablement rien aujourd'hui, sachant que Nicolas Hulot ne peut quand même pas démissionner 2 fois en 24 heures. Excellente journée à tous et à demain.